On va peut-être commencer. Bonsoir à tous. Voilà, il y a encore quelques arrivants. Voilà. Bonsoir à tous pour être là. Et on va vous présenter donc ce travail sur l'oubli. Et tout d'abord, cette soirée a été organisée par l'Observatoire francophone de la médecine de la personne, qui est une association qui vient de se créer sur Poitiers, donc en janvier 2013. Donc c'est une jeune association, mais qui n'est pas une association parmi tant d'autres. C'est un observatoire, donc l'objectif est de mettre en lien des soignants, des patients, de mettre du lien entre eux et de vraiment révéler la pratique dans laquelle ils sont, pratique de la maladie, que ce soit du côté des soignants ou du côté des patients. Donc cet observatoire a pas mal de projets en route et le premier travail, c'est de présenter Monsieur Simon Daniel Kipman, qui est le président de l'Observatoire francophone. Et Monsieur Simon Daniel Kipman est psychiatre et psychanalyste, fondateur de la Fédération française de psychiatrie, chercheur, écrivain, etc., etc. Et donc, il a travaillé sur l'oubli et ses vertus. Et donc, il va être à même de vous en parler, de discuter avec vous à ce sujet. Voilà. Bonne soirée.
Merci. Je ne sais pas comment commencer. Si. Observatoire. Tout le monde sait maintenant que l'observateur est partie prenante et un des éléments de l'observation dont il rend compte, qu'il n'est pas neutre, qu'il est vraiment impliqué dans l'observation qu'il mène et que les résultats même de l'observation, que l'objet observé, peut être modifié du seul fait de la présence et de l'attitude et du comportement et des pensées de l'observateur. C'est une donnée scientifique maintenant couramment admise. Et donc, ce n'est pas du tout un hasard qu'on soit parti sur ce titre-là, observateur. Parce qu'il s'agit vraiment de ça. Il s'agit vraiment de ça en ce qui concerne la médecine de la personne. Il s'agit vraiment de ça en ce qui concerne l'oubli. Et je ne peux pas, maintenant, après coup, c'était pas délibéré, c'était pas un truc, mais je ne peux pas aujourd'hui dissocier tout ce travail qu'on a mis en route parce qu'il n'est pas encore achevé, il n'est pas du tout, c'est vraiment une histoire qui démarre encore, autour de la médecine de la personne. Très mauvais titre, il n'y a pas de moi, donc je peux dire. Ce travail que j'ai été amené à faire parallèlement ou même avant, j'ai commencé avant, autour de l'oubli. Si je dis juste un mot là autour de mauvais titre, parce que médecine de la personne, ça veut rien dire, enfin, ou surtout dire, c'est le genre de truc valise où on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Toujours dans la participation de l'observateur à l'observation, on met ce qu'on veut. Alors que très précisément, ce sur quoi nous tombons en permanence, c'est combien il s'agit non pas d'une médecine et de l'ensemble de ce que représente une médecine, de la consultation aux soins jusqu'à l'organisation des soins, d'une médecine de la personne, mais d'une médecine des personnes, de tous les côtés de tous ceux qui entourent la maladie, et d'une médecine de la complexité de la personne. En gros, ça, ça pourrait se résumer à ça. Et donc, je dois dire que je suis très, très, très honoré et très heureux que le premier congrès francophone, je peux aussi vous dire un mot, pourquoi francophone, ça a l'air comme ça, c'était de repli sur une langue, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est vraiment d'être au plus près de notre sujet. Notre sujet étant les pratiques soignantes, au sens le plus large, la manière dont des malades peuvent se ressentir dans un statut de malade et peuvent participer aux soins, la manière dont l'entourage, et l'entourage, c'est bien entendu la famille, mais bien entendu aussi tout l'entourage, hein, du voisin de palier au compagnon de bureau ou d'atelier, tout cet entourage participe aussi à ce travail, et dont toutes les personnes concernées du malade lui-même, de sa famille, de l'aide-soignant, des infirmiers, des différents techniciens, des différents intervenants, des aidants naturels, des aidants pas naturels, des aidants intermittents. Tout cet ensemble-là, cet ensemble complexe, encore une fois, interagit en permanence. Et combien, effectivement, le cadre, tout ça ne doit pas grand-chose au hasard, le cadre d'une ville comme Poitiers me paraît tout à fait intéressant, parce que, effectivement, là, on peut rencontrer vraiment, et élaborer avec des gens de terrain, des gens qui vivent les choses, et qui ne sont pas forcément les spécialistes éthérés que l'on rencontre dans les grandes académies. Donc, je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Et le thème de ce congrès, qui est très, très large, très vaste, qui balaie le champ, me paraît aussi intéressant, il me paraît intéressant de vous en informer, c'est de la pratique à la théorie et de la théorie à l'organisation. Pas d'organisation improvisée. Il ne s'agit pas de faire des choses comme ça pour aller vite, pour rationaliser à toute force. Il s'agit de penser cette organisation de la pensée. Et donc, les décideurs, les édiles, les élus, tout ça, sont concernés, bien sûr. De aussi penser que là, il y a quelque chose qui doit s'appuyer sur une théorisation, une modélisation solide, qu'il ne s'agit pas de répéter des gestes, des savoir-faire, il s'agit de bien plus que de cela, et que ça implique une réflexion sur ce que c'est que la maladie, le soin, etc. Bon, bref. Mais je ne suis pas là pour vous vanter les mérites et l'intérêt de ce congrès qui va avoir lieu très très bientôt et qui me paraît a priori tout à fait passionnant. Pour aborder l'oubli, il y a un problème. Il y a un problème de savoir ce que c'est que l'oubli. C'est bien joli, l'oubli, bon, tout le monde sait ce que c'est, bien sûr. Mais comment en donner une définition, comment en faire un objet de réflexion et de recherche cohérent, consistant? Ça, c'est la première question. Et je me suis posé quelques petites questions idiotes. J'adore les questions idiotes parce qu'elles sont très révélatrices. La première, c'est évidemment, on va commencer par ce qui est plutôt mon créneau. Qu'est-ce que c'est qu'un neurone ? Un neurone, c'est ni plus ni moins qu'un tuyau, enfin un tuyau, même plein, hein, mais qui est une sorte de tuyau qui transporte des informations. C'est un conduit, c'est un... Bon, gardons l'image du tuyau. Mais au fond, ce qui fait qu'un neurone est un neurone, ce qui fait qu'il a une richesse, c'est pas tellement d'être un tuyau, c'est toutes ces prolongements, toutes ces dendrites, tous ces contacts qu'il a avec des zones en général assez étendues. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que c'est qu'un intestin ? C'est aussi un tuyau. C'est un tuyau, mais il est bien évident que ce qui compte dans l'intestin, c'est l'extraordinaire richesse des zones de contact entre l'intérieur et l'extérieur, avec toutes les transformations qui s'y opèrent, de contact avec une flore microbienne extraordinairement riche et qui fonctionne en symbiose en permanence, et que c'est là qui fait vraiment qu'un intestin est quelque chose d'un tout à fait important. J'ai vu dans une revue scientifique il n'y a pas longtemps l'intestin, notre deuxième cerveau. Hein, et oui, que serait le premier cerveau s'il n'y avait pas une digestion derrière ou devant ? Qu'est-ce que c'est pareil qu'une artère, qu'une veine, c'est aussi un tuyau, mais dont l'importance vitale, dynamisante, est en fait dans cet extraordinaire réseau d'artérioles, c'est bien entendu, et dans toutes ces petites anastomoses entre veines et artères, etc. Donc, bien entendu, ça a l'air d'être un tuyau, mais c'est beaucoup plus qu'un tuyau. Et ce qui en fait vraiment la richesse, c'est toutes ces pseudopodes et prolongements et qui vont au contact de quelque chose. Je peux même aller jusqu'à dire qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? C'est bien entendu, c'est un homme d'organes qui fonctionne, mais avez-vous pensé un instant à l'extraordinaire étendue par rapport à la capacité cérébrale, par exemple, ou au volume du cœur, ou du foie, ou des reins, l'extraordinaire étendue des zones de contact. La peau, les alvéoles pulmonaires, l'intestin dont je parlais tout à l'heure, etc., etc., etc. Les glomérules rénaux, les scissures du cerveau. On pourrait, je ne connais pas les chiffres, et d'ailleurs ce n'est pas très important, mais nous sommes une immense zone de contact. Et que peut-être, il faut commencer à penser les choses en fonction de ces contacts. Et qu'est-ce que c'est que l'oubli ? Qu'est-ce que c'est que l'oubli ? C'est quoi ? Un trou, un manque, un vide, une absence, un défaut, un trouble de mémoire. En tout cas, c'est apparemment quelque chose qui est strictement négatif. Et à ce moment-là, comment parler d'un vide, d'un trou, d'une absence ? Comment en parler ? Comment y réfléchir ? Comment avoir un abord rationnel, logico-déductif, comme on dit, de ce vide-là ? Et c'est là que apparaît l'immense problème de devoir, c'est comment en parler ? Comment en parler ? Comment donner la formule de l'oubli avant même d'aborder la question de à quoi ça sert et comment ça marche ? Et donc, qu'est-ce qu'on a comme, comme analogie utilisable ? Il se trouve que, par bonheur, il y a eu, on va dire très, très, très rapidement, comme ça, vers la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, une révolution scientifique, absolument, qui a été une révolution de pensée. Pas de ces révolutions dont on dit il faut que tout change pour que rien ne change. Hein ? Vraiment quelque chose qui a été bouleversant pour ceux qui l'ont vécu, qui a entraîné des progrès techniques inimaginables avant, et qui, pris dans la réaction naturelle à ce bouleversement de la pensée, sont devenus, là encore grosso modo au cours de la, du XXe siècle, sont devenus prédominants, envahissants, quasiment impérialistes. Je veux dire que cette révolution de pensée, elle a été qu'on a pu enfin penser à quelque chose. Ah, excusez-moi, je vais me lancer dans des trucs là que je ne vais pas maîtriser, mais quand même, qui fait penser à l'introduction dans la pensée contemporaine de ce que les mathématiciens appelleraient la quatrième dimension, c'est-à-dire une dimension qui n'a aucune réalité objective ou, comme je le dirais plus volontiers, sensorielle, puisqu'on ne peut pas la figurer, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la figurer, on ne peut pas la dessiner, on ne peut pas la visualiser, on ne peut pas se la représenter, et pourtant, elle est là. De la même manière que, que brusquement, on s'est dit que ces immensités vides intersidéral était plein de ce qu'on a appelé la matière noire, l'antimatière, et que peut-être que c'était cette antimatière qui faisait qu'on pouvait vivre là-dedans, et pas tellement, et donc que le vide était là essentiel et comme presque l'armature, la fondation de ce que nous pouvons percevoir. De la même manière, il y a eu cette découverte bouleversante, et je le dis mais volontairement en termes d'émotion, qui a été l'introduction de la relativité et surtout de la physique quantique. Il y avait au-dessous de ce que nous appelions les atomes, au-dessous de ce que nous pouvions repérer comme des molécules, au-dessous de ce que nous pouvions repérer comme le noyau des atomes ou les particules des atomes, des éléments, restons flous, infra-atomiques, dont certains n'ont même pas de masse, le boson de Higgs, et qui pourtant sont là, tout le temps, présents, et donc permettent le fonctionnement de l'ensemble de la machine. L'ensemble de la machine physique, de l'ensemble de la machine humaine, de l'ensemble de la machine animale. C'est une sacrée révolution de pensée. Et d'ailleurs, cette révolution de pensée, au moins dans ses débuts, s'est appuyée sur ce que des gens comme Schrödinger et des mathématiciens, appellent des expériences de pensée. Puisqu'on ne peut pas y mettre un laboratoire. Einstein disait, mon laboratoire, c'est mon cerveau. On ne peut pas mettre ça en équation simple, on ne peut pas mettre ça en arithmétique élémentaire. Eh bien, il faut passer à des formules et à des choses qui tiennent compte des multiples dimensions des mathématiques contemporaines, qui tiennent compte de l'espace-temps, c'est une notion un petit peu farfelu comme ça, pour le bon sens habituel, qui tiennent compte de la quatrième dimension et tout ça. Et on peut se dire que l'oubli fait partie de ces matières noires de ces éléments infravisibles ou infrarepérables, que ce sont c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du tuyau que nous sommes, du tuyau qu'est notre activité de pensée, notre activité cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est peut-être plus, qui n'est pas représentable au sens je fais un dessin, mais qui est de l'ordre de la définition mathématique d'une droite, c'est-à-dire un ensemble virtuel de choses. Et cet ensemble virtuel, l'oubli, on peut en parler aujourd'hui en fonction de l'équivalent de la matière noire du psychisme qui est l'inconscient. Il ne suffit pas de le considérer comme un sous-produit de quoi que ce soit. C'est un des éléments du fonctionnement psychique et c'est un élément que nous ne pouvons pas appréhender ni par le discours, ni par le comportement. Nous pouvons à la rigueur en appréhender certains de ses effets secondaires. Donc on peut très bien parler, réfléchir et conceptualiser du vide. Et pourquoi à ce moment-là conceptualiser l'oubli? Eh bien, parce que comme la matière noire, je m'exclus de l'analogie, je fais là un truc assez simple, mais enfin, je crois que ça parle, si ça ne se visualise pas. Et comment est-ce qu'on peut considérer ça? L'oubli, il est comme la matière noire, il est partout, partout, partout. Partout parce que, simplement, nous oublions tous beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses, et même beaucoup, 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 beaucoup plus de choses que nous n'en avons en mémoire. Si on vous demandait minute par minute, seconde par seconde, ce que vous avez fait depuis votre naissance, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose, donc il y a toute cette masse d'événements, d'impact sur nous qui est parti quelque part. L'oubli est omniprésent, il est là. Il nous entoure, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le saisir. De temps en temps, on a la sensation d'oubli, et ça j'en reparlerai. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et alors là, constat de clinique d'une grande banalité, on en parle toujours en mal. L'oubli, c'est un trouble de mémoire. L'oubli, c'est bon, vide, tout ça, gna gna gna. C'est un trou, une lacune dans la vie des gens. C'est pas bien d'oublier. C'est pas bien d'oublier. Sauf que qui dit ça? Certainement pas celui qui oublie. Celui qui oublie, par définition, il ne sait pas qu'il a oublié. S'il le savait, il n'aurait pas oublié, quoi. Pour être tout à fait bête. Donc, il ne sait pas qu'il a oublié. C'est donc un mécanisme totalement imperceptible, mécanique, inconscient, au sens le plus strict. On ne sait pas. Quand on oublie un billet de 10 euros sur le comptoir d'un truc... on ne s'en aperçoit même pas. Et si on vous dit dans la rue, mais vous avez bien votre argent, bah oui. Bon, il faut, pour qu'on ait cette sensation d'oubli, l'intervention d'un tiers, l'intervention d'un événement, d'un objet et d'une personne extérieure qui vient vous mettre le nez dans votre oubli. Passons dans la, dans la littérature ou dans des cas cliniques relativement rares, les amnésiques, si vous leur dites « qui êtes-vous ?», et bien, il dit « je ne sais pas ». Il ne dit pas « j'ai oublié », il ne sait pas, il ne sait vraiment pas. Hein. Ben, il faut lui dire ben, « quand même, vous avez été enfant ». Bon, et à ce moment-là, il se rend compte qu'il est amnésique. Et c'est une grande souffrance. Et c'est une grande souffrance parce que, pourquoi ? Parce que, à ce moment-là, mais venant de l'extérieur, c'est-à-dire que l'oubli des autres, il est, un, toujours culpabilisé, et que l'oubli des autres, c'est ma mémoire à moi. Donc, il y a là quelque chose qui, dans l'oubli, est une sorte de révélateur d'une capacité ou d'une qualité relationnelle obligatoire. Et que tout ce qui est dit de négatif sur l'oubli est dommage de négativer systématiquement. Mais moi, je n'ai pas voulu faire une défense et illustration de l'oubli. C'est formidable d'oublier, allons-y, laissez-vous aller. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réparer un dommage qui est fait aux personnes qui ont oublié des petits détails ou de grandes affaires, de réparer un dommage qui est fait par nous, de l'extérieur. Ou un dommage qui m'est fait quand moi j'oublie par quelque chose d'extérieur qui me dit « mais enfin quand même, quoi, t'as oublié, mais enfin ça va pas, t'es gâteux ». Enfin, mais j'étais là, on l'a bien vu, on était là, mémé était là. Et puis, bon. Ah, mais non, mais je devrais savoir. Donc la culpabilisation de l'oubli est un phénomène pratiquement automatique, mais qui met l'oubli dans une situation d'organisation à plusieurs, relationnelle. Ça n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur. Le corollaire de ça, et qu'on se le dise et qu'on n'en parle plus, il n'y a pas d'oubli volontaire. Il n'y a pas d'oubli volontaire. Le meilleur moyen de se souvenir de quelque chose, c'est de se dire « je voudrais l'oublier ». Ça, c'est le meilleur moyen de se le répéter en boucle. Surtout pas. Il n'est pas question si... Mais regardez les symptômes obsessionnels. Hein. C'est embêtant de se laver les mains 10 fois de suite. C'est embêtant d'aller vérifier que sa clé a bien été tournée et 2 fois. C'est embêtant de vérifier qu'on a bien allumé ou éteint la lumière. C'est embêtant. Et pourtant. On va vérifier, c'est-à-dire qu'on y pense, on y pense, on y pense, on y pense. Donc l'oubli volontaire, niet. Hein, carrément, niet, ça n'existe pas. Ce qui existe par contre, c'est, on arrive à ce qui est peut-être un des mécanismes de l'oubli, on peut faire pression de l'extérieur toujours. Je peux faire pression sur quelqu'un pour lui faire oublier quelque chose. C'était comme ça, c'était pas comme tu crois, c'était autrement. C'était comme je dis. Ou c'était plus important ce qui s'est passé la veille ou le lendemain. Je peux le faire pression, et collectivement on peut faire pression. C'est, pour dire les choses très très rapidement, mais de toute façon on n'a pas le choix, c'est l'histoire officielle. C'est comme ça. Et donc, tout ce que toi, individu, tu as pu vivre de différent, il faut le gommer. C'est pas, on efface. Ça, c'est un mécanisme interne de l'oubli que je pourrais appeler par distraction. On peut pousser quelqu'un à penser à autre chose, et donc, du coup, ça efface complètement ou relativement La pensée interdite ou refoulée. Comme on dit. Et ça, on peut faire pression de l'extérieur.
et on est toujours dans la relation justement autour de l'oubli. Ou bien, il peut se passer le contraire de ce qui se passe dans la mise en forme, dans l'établissement, dans la construction d'un souvenir. Qu'est-ce qui se passe dans la construction d'un souvenir ? Il y a l'association d'une image, pour dire les choses comme ça d'une manière un peu globale, d'une image, d'un événement, d'un quelque chose qui est tout à fait représentable. Une fontaine au bord d'une place, le printemps dans les arbres, les oiseaux qui font cuit-cuit, une image, comme ça, et une émotion. S'il n'y a pas l'association des deux, l'image vient, peut venir, mais elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens et du coup, elle repart aussi vite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, d'accord, je pense à un arbre et à une fontaine au bord d'une place, et alors ? Et alors, ça me dit rien. Bon. Donc, il y a une dissociation entre l'émotion et l'image. Ou alors, c'est l'émotion qui vient toute seule et j'ai un sentiment diffus de malaise ou d'euphorie, peu importe, hein, mais qui n'a aucun sens. Ça ne va pas, là. Il n'y a rien qui doit me pousser à rire ou, au contraire, à pleurer, mais bon, ça ne va pas. Donc, s'il y a une dissociation des deux, il n'y a pas de souvenir. Il y a des sensations bizarres, vagues, dont on ne sait rien faire. S'il y a une association des deux, à ce moment-là, effectivement, l'image est associée à une émotion, et à ce moment-là, on peut la figurer, cet ensemble. J'utilise là encore cette expression à dessein, et en même temps sans du tout la valider scientifiquement, mais ce souvenir comme quelque chose, un amalgame physico, l'image, psychologique, l'émotion. C'est un truc comme ça où brusquement deux visions, deux points de vue, deux sensations se collabent. Et pour qu'il y ait oubli de ça, il faut que ou bien l'image soit détournée sur autre chose, c'est-à-dire jamais renforcée. Les souvenirs sont renforcés par les récits des autres, par les photos, donc sont constamment remaniés au niveau de l'image. Ou bien, et ça c'est l'autre extrême du spectre, qui n'est pas de la distraction, qui est une émotion tellement forte qu'il y a une sidération devant une émotion intense, une peur, un truc inimaginable qui m'arrive, je reste baba ou béa, je reste sans voix, sans pensée, sidéré, et à un étage de plus. Et le mot vaut bien pour ce qu'il veut dire, je perds connaissance. Perdre connaissance, c'est-à-dire qu'il y a une sidération brutale, violente, et effectivement, là, il n'y a aucune impression, imprégnation, enregistrement de ce qui s'est passé. C'est trop, ça n'est pas repérable. Les grandes catastrophes collectives sont quelquefois accompagnées d'amnésie massive, parce que je ne peux pas imaginer le tsunami qui me tombe dessus, ou les grandes catastrophes lors de guerres ou de trucs comme ça, ou des catastrophes personnelles qui sidèrent. Par exemple, je ne sais pas si parmi vous il y a beaucoup de soignants ou pas, mais repérez un petit peu ce qui se passe quand on est amené à annoncer à un malade une nouvelle effroyable. Je me souviens de collègues qui me disaient bah, ces gens sont idiots, on leur dit ce qu'ils ont et ils ne comprennent pas. Ils disent, je ne sais pas, je pense à des histoires avec des enfants malades. On dit aux parents, voilà, votre enfant, il a un cancer, il a une leucémie, il a un truc comme ça. Et ils disent, est-ce qu'il entrera en sixième ? Ils sont idiots ? Non, ils sont sidérés. Ils sont sidérés, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'image là-dessus. Hein, ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas leur arriver. C'est donc, il y a un effet de sidération. Donc aux deux bouts du spectre de l'oubli, dans les mécaniques de l'oubli, dans les mécanismes de l'oubli, il y a d'un côté la sidération, de l'autre la distraction, pour dire les choses sans jargonner. Et entre les deux, il y a tout ce qui fait tout ce qui fait le pain béni des romanciers, des poètes, des orateurs, des inventeurs, des découvreurs, il reste des bribes, petits trucs épars, avec lesquels, c'est peut-être de briques élémentaires, avec lesquels on va se construire quelque chose qui est tantôt pour tout le monde nouveau et original, tantôt pour moi seul. Moi, je pense que j'ai découvert l'Amérique, parce que c'est la première fois que je vois l'Amérique. Mais donc, c'est vraiment quelque chose d'une création originale que je... Voilà, on est toujours dans cet entre-deux. Donc, entendons-nous bien, je ne cherche pas du tout à dire l'oubli, c'est mieux que le souvenir ou c'est moins bien que le souvenir. Simplement, l'oubli est la part invisible de l'iceberg de la vie psychique, mais cette part invisible, elle est largement plus importante en volume, en poids, en ce que vous voulez, hein, en importance, que la part visible. Et donc, ça veut dire que quand on est en face d'une réaction quelconque, de banale même, si nous voulons avoir une attitude, je vais dire clinique d'abord, scientifique ensuite, en face de ce comportement ou de cette attitude, c'est vraiment se priver de quelque chose d'essentiel de ne penser qu'à la part visible du dit iceberg. Je ne suis pas en train de dire nous sommes tous des icebergs non plus. Bon, donc vous voyez que l'oubli, ça soulève des choses extrêmement importantes. Et pour revenir à l'image que je vous donnais au début, celle du tuyau, hein, au fond, l'important, je me souviens d'avoir entendu un jour dans une radio un type dire parler des tuyaux creux à l'intérieur. C'est d'une précision remarquable, mais des tuyaux creux à l'intérieur, dans ce creux, il se passe des choses importantes qui justifient l'ensemble du tuyau et qui ne sont opératoires qu'aux deux extrémités du tuyau. C'est-à-dire parce que les uns et les autres, le sujet et l'observateur, en font. C'est-à-dire que c'est un élément important de ce qu'on appelle très, très rapidement la relation soignante, hein, la relation médicale, la relation médecin-soigné. Mais c'est aussi un élément très important, je ne sais pas là encore s'il y a parmi vous des enseignants, de la relation enseignante. C'est aussi un élément très important. Hein, ceux qui sont enseignants, vous imaginez 30 secondes, non, pas une seconde, ce que subiraient ces malheureux enfants s'ils se souvenaient mordicus de tout ce qu'on leur apprend. Mais quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Ces malheureux ne pourraient pas vivre 10 secondes. Ils seraient toujours à comparer ce qui arrive à ce qui s'est déjà passé, à ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'ils n'auraient plus aucune capacité de découverte, de curiosité et d'invention. Et voilà le côté vertueux de l'oubli, c'est que l'oubli, alors, un, ça permet de penser, ce que je suis en train d'essayer de faire, mais l'oubli, c'est extrêmement utile à la vie psychique et à la vie tout court. D'abord, ça fait le ménage. On ne peut pas laisser les choses s'entasser comme ça. Donc, il faut bien faire un peu de vide pour ce... Et donc, mais du vide, c'est bien joli de faire le ménage, c'est bien joli. Mais du vide, pourquoi ? Pour quelque chose de fondamental, c'est la disponibilité. C'est pour qu'on puisse, chaque jour, à chaque instant, avoir le sentiment de découvrir, même si de l'extérieur on sait que ça n'est jamais qu'une redécouverte, de découvrir, de révéler de quelque chose, peut-être que tout le monde sait depuis toujours, mais qui en tout cas est un des éléments vertueux de l'oubli. Bon, je vais bien entendu citer Aragon, tu peux m'ouvrir 100 fois les bras, c'est toujours la première fois. Mais c'est formidable, c'est quand même formidable. Si c'était la 158e fois, ça va, hein, ça va, retourne-toi et dors. Hein. Donc, non, je crois que l'oubli a cette vertu-là, de nous laisser sans arrêt disponibles face à l'avenir, pour dire les choses comme ça, face à la nouveauté. C'est aussi ce qui nous empêche constamment d'être envahis par la comparaison, la répétition. Parce que la répétition, c'est l'inertie et c'est la mort psychique. Donc, il y a là quelque chose, c'est intéressant d'ailleurs, quand je dis la répétition, oh là là, la répétition c'est la mort psychique, c'est intéressant parce que pourtant notre fonctionnement visible, repérable, qu'on peut facilement mettre en arithmétique et quantifier, est fondée sur la répétition. Le cœur fait poum-tac, poum-tac, poum-tac. Hein, la respiration, là. Marcher, c'est toujours avancer une jambe l'une après l'autre. On passe son temps, et quelques neurones au sommet du lobe frontal viennent, au fond, donner le rythme de la journée, donner le rythme de la vie d'un individu. Donc, on est apparemment basé sur le rythme, basé sur des rythmes répétitifs avec des nuances, bien sûr. Hein, et d'ailleurs, quand ils ne sont pas répétitifs, ça devient une catastrophe et il faut appeler le SAMU. Le rythme est là. Les premiers mouvements du fœtus, c'est des mouvements comme ça, extrêmement stéréotypés et répétitifs. Donc, on a l'impression que notre vie organique est fondée sur la répétition éternelle, enfin éternelle, la durée de la vie, de choses, et tous les matins on se lève, et tous les soirs est le cycle du sommeil, et il faut manger d'un lin, etc., 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 et il faut avoir des horaires, et tout. Et que ce qui fonde notre vie psychique, c'est d'être capable et moi je dirais heureusement capable, d'échapper à cette répétition. Et ça, c'est la fonction de l'oubli. Alors juste une petite note, 30 secondes, sur les oublis dont tout le monde parle dans tous les journaux, partout, dans toutes les campagnes. Ça, c'est les oublis des personnes âgées. J'ai relu. Je me suis livré à un petit travail pas forcément passionnant, mais enfin bon, sur ça. Et je suis frappé. D'une part, qu'on parle toujours de l'oubli, de ces oublis en termes négatifs, ça c'est un premier plan, mais aussi que presque systématiquement, on parle de ces difficultés de mémorisation et qu'on oublie leur corollaire, qui est l'accès à sa propre histoire, c'est-à-dire la réapparition des souvenirs anciens. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, hein, parce que ça aussi, c'est une réalité clinique. Hein, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça donne des perspectives extraordinaires à tout ce qui est soins et traitements à ces personnes en perdition, et ça peut-être rendre compte de quelque chose dont qu'on voit cliniquement quand on s'en donne la peine, à savoir l'extraordinaire disponibilité, c'est un maître mot, de ces personnes à ce qu'on peut leur dire, à ce qu'on peut leur raconter, à ce qu'ils ressentent eux comme des découvertes permanentes. Ah tiens, j'ai une nouvelle chambre, c'est la même. Je vous ai jamais vu, c'est le même qui voit tous les jours. Et que peut-être, ça c'est l'élément le plus vivant et le plus vital qu'on a tendance à négliger un petit peu trop. Juste ça comme parenthèse. Et maintenant, je vais vous supplier... parce que je peux continuer très longtemps. Je vais vous supplier de m'aider et de m'aider en m'interpellant, parce que autrement, je vais recommencer, quoi. Alors à vous le dé.
Donc, je suppose que vous êtes venus nombreux, donc il y aura plein de questions. Voilà, il suffit juste que quelqu'un ou quelqu'une se lance.
Merci madame.
Bon, c'est toujours la première question qui est difficile, alors je vais la poser. Pourquoi on oublie ?
Pourquoi on oublie ? J'ai du mal à répondre. Vous voyez, c'est toujours la première question qui est le plus difficile. Je suis bien d'accord. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourquoi on oublie ? Je peux vous en faire une théorie, une vision du fonctionnement, hein, qui est un point de vue. Hein, à savoir qu'on oublie pour faire le ménage, pour se rendre disponible, que modifie la... Alors, je vais dire des mots que je n'aime pas beaucoup m'envoyer, mais la hiérarchie des valeurs, et que ça vaut le coup de réfléchir à la vie humaine en bouleversant un petit peu ces trucs-là, d'une part. Mais je peux vous dire aussi qu'on oublie parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On respire. Pourquoi on respire ? Bien sûr que c'est ce qui permet des échanges oxygène. Bien sûr. Hein, mais en même temps, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de ne pas respirer. Et simplement, je prends l'exemple de la respiration. Très bien. Allons-y. Quand inspirer, expirer, on expire beaucoup plus, hein, et beaucoup plus lentement qu'on inspire. Hein, c'est comme ça. C'est bon. Et on n'a pas le choix. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc on oublie parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'oublier. Alors de là à en faire un vilain péché, il y a quand même une marge qu'il faudrait un petit peu surveiller. Hein. Madame.
Oui, en fait, on oublie, mais quelquefois, vous parliez des personnes âgées, en fait, elles ont oublié et donc il arrive un moment où... où en fait elles ont la mémoire qui revient en fait sur des événements passés qu'elles pensaient avoir oubliés. Et donc c'est un oubli, donc ça se stocke où et c'est une réactivation en fait de la mémoire. Donc en fait c'est pas enfin c'est un oubli sans être un oubli parce que c'est stocké quelque part et ça réapparaît quoi. Et, voilà. Et pareil par exemple pour des événements traumatiques, on a oublié. Il peut y avoir un travail thérapeutique et en tout cas ça revient à la mémoire, donc c'est réactivé et ça revient quoi.
Voilà. Alors si vous voulez, je crois qu'on ne peut pas, on ne peut plus, en tout cas, penser qu'il y ait un stock de souvenirs quelque part. Je vais le dire de manière un peu triviale et trop beaucoup trop schématique, que le souvenir n'existe pas. Et en tout cas, le souvenir n'est pas un fait. Ça, il ne faut pas confondre les deux niveaux. Le souvenir n'est pas un fait. Le souvenir, c'est une histoire qu'on se raconte, ou qu'on raconte aux autres, mais c'est une histoire qu'on commence par se raconter, et qu'on se raconte, non pas à partir d'un stock tout fait, mais en retissant cette histoire, et on le fait en permanence en même temps, en retissant cette histoire à partir de bribes, de petits morceaux, de petits éclats, de petits trucs. Hein, à un moment, j'avais un truc que j'appelais la théorie du pack à cadeaux. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de stock de mémoire, mais il y a des petits trucs bien enveloppés qui flottent là dans une soupe primitive, si vous voulez, ou dans le fin fond de l'inconscient. Ces objets sont entourés de jolis petits rubans. Et on attrape un ruban. Et en tirant sur le ruban, on s'aperçoit qu'on tire quelque chose, mais si on ne tire pas sur ces bribes, sur ces petits morceaux de ficelle qui sont rien, qui sont quelquefois... Hein, et d'ailleurs, puisque vous parliez de travail sur soi-même et de thérapie, quelle que soit, c'est extraordinaire la manière brusquement, ça me fait penser. Et hop, à partir d'un truc qui n'avait pas d'importance, auquel on ne pensait pas. C'était pas oublié, on n'y pensait pas, parce que ça n'avait pas d'importance, parce que c'était un petit morceau, parce que c'était une bribe. Et on a dit que le rêve, c'était la voie royale d'accès à l'inconscient. Freud l'a dit, c'est pas idiot du tout. Simplement, c'est pas vrai. Le rêve, d'abord, on n'a jamais de rêve. On n'a jamais vu un rêve et on n'a jamais vu quelqu'un qui racontait son rêve en même temps qu'il le faisait, hein, pour des raisons évidentes. Hein. Donc on ne sait pas. Tout ce qu'on a, et encore sur une petite fraction des rêves qu'un individu fait, c'est des restes, des bribes. Et des bribes qui, pour être racontées, sont reconstituées, bien sûr. Hein? Bon. Et ce qui est la voie royale avec l'inconscient, c'est les dendrites du neurone, c'est les artérioles, c'est-à-dire toutes les associations que la personne va faire dessus, et celle aussi que va faire l'analyste, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est par ce petit truc-là qui est passé à travers le tuyau qu'on va pouvoir tisser
et tisser, au sens de je fais un tissu, hein, et un tissu qui va prendre forme et qui va être le récit du rêve et le récit des associations sur ce rêve. Et c'est ça, la véritable voie royale, bien sûr. Donc, on retombe sur l'importance des échanges. Ce truc comme ça. Ah oui, ça me fait penser à... qui n'avait pas d'importance, bloum, 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 à travers une série de mécanismes qui ressemblent bien à de la métabolisation, eh bien, hop, ça va donner quelque chose de construit. J'ai réussi à me construire une histoire. Cohérente pour moi.
S'il vous plaît, oui, je voulais poser la question au fond.
Ah oui,
excusez-moi. Je voulais poser la question. Vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention que l'oubli ne pouvait pas être volontaire. Or, bon, je suis ni enseignante ni soignante, donc je précise effectivement que j'ai pas du tout connaissance des techniques qui peuvent être utilisées, mais dans ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même des oublis qui sont on stocke les choses et puis on les oublie un petit peu quand même. Enfin, il y a des choses qui ont été faites là-dessus, parce que l'oubli, ce n'est pas forcément négatif, c'est aussi très positif dans un post-traumatique. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui auraient bien aimé oublier plein de choses qu'ils ont vécues. Quoi.
Mais bien sûr, si vous voulez, je peux vous le dire. L'oubli, hein, quand je disais ça fait le ménage et ça fait de la place, bien sûr que ça peut être considéré comme un des mécanismes de défense contre l'angoisse. Comme d'ailleurs, puisque je parlais un peu de jargon psychanalytique, comme d'ailleurs le refoulement. L'oubli n'est pas que le refoulement, je crois, et le refoulement n'est pas que l'oubli, c'est... Le refoulement, c'est très précisément faire une transformation de quelque chose qu'on a ressenti en des... C'est passer à la moulinette, quoi. En justement, ce qui va en rester, c'est-à-dire des bribes, des petits morceaux qui n'ont aucun sens entre eux, mais qui peuvent, à d'autres moments... se rencontrer, se heurter les uns contre les autres, comme, je garde mes comparaisons, mais ce ne sont que des comparaisons, et comparaison n'est pas raison, comme des particules élémentaires qui vont s'unir, se désunir, et puis faire des ensembles de plus en plus gros, jusqu'à faire des molécules, des idées, des concepts et des réalisations.
Bonsoir. Que pensez-vous en fait des personnes qui écrivent un journal en fait pour pas oublier justement ?
Eh ben, vous savez, je ne sais pas si vous vous êtes livré à ce genre d'exercice. Ce qui est passionnant, vraiment passionnant et étonnant, c'est je ne fais pas de journal, hein, ce n'est pas mon truc, mais je prends des notes, je prends beaucoup de notes. Hein, et de temps en temps, quand je dois écrire un truc, là, je me reprends les notes et puis je les parcours. C'est stupéfiant. Hein. J'ai l'impression, quelquefois d'avoir dit des choses intéressantes, quelquefois d'avoir écrit des choses banales, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand je prends ces notes, c'est comme si je mettais mes idées au coffre. Hein? Alors elles sont là, mais je ne sais même plus combien j'ai au coffre. Quoi. Hein? C'est pas que j'en ai beaucoup ou pas beaucoup, c'est que bon, c'est un petit peu comme cette délégation qu'on fait aux mémoires mécaniques. Hein? On croit leur filer notre mémoire, ça n'empêche rien du tout.
on oublie ce qu'on oublie et on garde en mémoire ce qu'on oublie, ce qu'on garde en mémoire. Et le fait d'avoir confié un maximum de trucs à son ordinateur ne fait pas que l'ordinateur a plus ou moins de mémoire que moi, il fait qu'il a un stock. Mais la théorie du stock ne marche jamais.
Oui.
Les ateliers mémoire qui nous promettent des neurones en bon état. Alors, deux choses. La première, les neurones en bon état, on sait maintenant, c'est pas une invention, que quel que soit l'âge, il y a encore, et à tous les âges, une certaine plasticité cérébrale, et que des neurones peuvent se régénérer, voire repousser, voire se mettre en activité, même à des âges très importants, et que d'autres pas. Bon. Donc que cette idée qu'on perd des neurones, oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça, premièrement. Deuxièmement, bien entendu qu'il faut exercer sa mémoire. C'est formidable que des comédiens se souviennent de milliers et de milliers et de milliers de vers, alors que nous, on a du mal à se souvenir du code de notre porte d'entrée. Ils ont un exercice de la mémoire, une gymnastique de la mémoire, dont je vous rappelle d'ailleurs que c'est quand même une mémoire très spécialisée. Hein. Bon. Et on s'aperçoit que ces exercices de mémoire développent certaines zones du cerveau, pas la mémoire. Hein, ça, ils ont cette capacité-là. Et alors, pour en venir à ces exercices qu'on fait dans les ateliers mémoire, je vais être là très simple et très brutal, et parce que je crois qu'on se fait des souvenirs, donc on mémorise quand on associe une émotion vraie à une image vraie. Les exercices de mémoire qui consistent à, je ne sais pas, je schématise, hein, ne prenez pas ça comme mais c'est vraiment schématique. Mais les exercices de mémoire qui sont une pure gymnastique, à savoir qu'on apprend des chiffres à l'endroit, à l'envers, ça ne sert à rien et c'est plutôt humiliant pour les personnes qui le font. Vraiment, je pense que... Par contre, si justement on essayait de travailler avec cette mémoire vive qui est la réapparition des souvenirs anciens, là, on verrait des choses très étonnantes. On a vu des choses très étonnantes.
Moi, c'est à propos de l'oubli puis de l'Internet. C'est-à-dire que rien ne peut s'oublier, pratiquement, ce qu'ils disent, sur la net, par exemple. Ou pour le gouvernement, ou pour les... Enfin, n'importe quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Enfin, bref.
Alors, la mémoire d'Internet n'est pas ma mémoire. Ça, une mémoire de machine. Attendez. Bon, on croit que accumuler des informations dans une boîte en fer blanc ou en, va augmenter les capacités de mémoire. Non, regardez la NSA. La NSA qui a des milliards et des milliards d'informations, ah, ils sont formidables. Ils ne savent pas quoi en faire. Alors, ils les stockent, ils ont des grands hangars avec des trucs. Bon. Et le jour où ils auront l'idée d'en faire quelque chose, eh ben, malheureusement, puisqu'il s'agit de machines, ils n'auront pas le logiciel qui était adapté et ils diront « Ah, c'est con, si on avait eu le bon logiciel, on aurait pu s'en servir. Hein » Ce que nous faisons tous les jours avec nos ordinateurs de poche. Donc, je crois que Cette délégation de nos aptitudes et capacités à des machines est un des drames fondamentaux de notre époque. Nous n'avons pas à nous débarrasser de C'est exactement comme si on disait si les ordinateurs vont remplacer notre mémoire à partir de maintenant, je vais bien me nourrir, je vais prendre des pilules de la NASA et puis c'est tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé, ça n'est pas comme ça que ça marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Moi, j'ai...
Oui, madame.
Là. Oui. bonsoir. J'ai déjà travaillé, moi, auprès de personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Donc, on parle quand même d'ateliers mémoire pour les stimuler, pour en voir cette... Parce qu'on parle, en fait, de mémoire à court terme et de mémoire à long terme. Ouais. Donc, on dit bien que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives se souviennent plus de leur mémoire passée jusqu'à l'enfance que ce qu'ils ont fait il y a 2 minutes, par exemple.
Oui.
Donc les ateliers mémoire, vous pensez que ça permet de maintenir le stade? Parce qu'il y a du pour et du contre, justement, sur ces ateliers. Ce que vous disiez tout à l'heure.
Si vous voulez, si ce sont des ateliers de mécanique de mémoire, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne change pas grand-chose. Si on travaille à partir de cette mémoire conservée, de cette mémoire ancienne, réanimée, si vous voulez, si on travaille à partir de ça, effectivement, on assiste, hein, c'est vraiment de l'observation clinique de base, on assiste à des évolutions et à des changements extraordinaires, surprenants. Mais qui est le mieux armé pour aider une personne à retrouver ses souvenirs anciens? Eh bien, les moins techniciens d'entre nous. Hein, les moins techniciens d'entre nous, parce que les proches peuvent dire « Est-ce que tu te souviens de... Ah, le petit vin blanc ?» Mais le super technicien... Le neuropsychologue, il n'en foutre rien du petit vin blanc. Il ne sait pas que ça a été important pour cette dame-là ou ce monsieur-là. Il ne sait pas. Donc, il va partir au hasard, il va tirer, faire du screening, il va essayer tous les trucs. Il est le plus mal placé. Il va y passer des heures, il va y perdre sa belle jeunesse et sa belle santé. Alors qu'en quelques heures, quelqu'un qui n'est pas du tout technicien, va réussir à faire des miracles. Moi, j'ai travaillé dans des centres pour personnes âgées. J'ai eu quelques ennuis parce que je disais des choses comme ça.
Vous connaissez le PASA, alors?
Comment?
Le PASA.
Mais oui, mais oui. Hein, mais, bon. Donc, il ne s'agit pas de mémoire mécanique, hein, il s'agit d'une mémoire qui ne peut être mémoire que parce qu'il y a de l'émotion avec. L'émotion qui est à disposition des personnes âgées, elle ne se trouve pas dans les laboratoires de neurophysiologie, elle ne se trouve pas dans les EHPAD, elle se trouve dans leur vie à eux. Dans leur passé et dans leurs expériences. Donc, c'est là qu'il faut travailler. C'est pas simple, hein, je dis pas que c'est simple. Mais je peux vous garantir que quand un membre de la famille passe 2 heures avec un monsieur qui est complètement à l'ouest, qui n'est pas foutu de savoir où il est et de reconnaître les gens, et que, brusquement, il arrive à retrouver et à raconter une histoire que le proche ne connaît même pas, hein, et à raconter une histoire et à s'animer et à avoir un discours parfaitement cohérent en donnant des références, là, on se dit que là, il y a eu un travail extraordinaire fait qui ne passe pas par des techniques, qui passe par une proximité et un échange verbal et affectif. Non, mais allez-y.
Comment? Oui, je voulais vous poser une question. De la même façon qu'il y a différentes mémoires, en fait, hein, est-ce qu'il n'y a pas différentes sortes non plus d'oubli? Parce que j'ai quand même l'impression, à travers ce que vous dites, à travers aussi un petit peu l'expérience, moi, de soignante, ce que je peux avoir, que l'oubli, parfois, n'est pas aussi total que ça. Qu'il réémerge en dehors des mécanismes de refoulement et de choses qu'on pensait avoir oubliées. Il y a des choses qu'effectivement, des gens qui oublient systématiquement tout, qui n'ont aucun souvenir et qui, où on voit réapparaître, je dirais, quelque chose autrement que par un souvenir verbal, mais qui va être peut-être plus par un langage corporel ou de somatisation, de choses comme ça. Et est-ce qu'il n'y a pas, de la même façon, plusieurs mémoires, plusieurs oublis avec des fonctions différentes ? Voilà, c'est un petit peu ma question.
Oui, alors, non, mais bien sûr. Bien sûr, simplement, je crois que, pour être honnête, on n'en est pas là. On n'en est pas là et que tous les classements qu'on peut proposer des oublis, j'ai essayé de... Oui, voilà. J'ai essayé de le faire, sont tous mauvais. Il n'y en a pas un qui tient la route. De la même manière que ces classements de la mémoire ne sont pas des classements de la mémoire ou de la mémorisation, qui est la fonction, ce sont des classements des souvenirs. Un petit peu comme autrefois, on classait les délires par leur objet. Donc, je suis très réservé là-dessus.
C'était pas pour classifier, c'était peut-être pour comprendre un petit peu plus pourquoi certaines personnes, par exemple, avaient tendance à se souvenir plus, à développer des mémoires comme ça, et d'autres à oublier. Et comment, plus par rapport à la fonction que par rapport à un classement ou une... voilà. C'est plus... je crois qu'on peut, on peut souffrir d'un trop-plein de mémoire, mais je crois qu'on peut aussi souffrir d'un trop-plein d'oubli.
Ah ben, bien sûr.
Voilà. Et c'était plus dans la fonction, de la même façon qu'on a une fonction de la mémoire, quelles pourraient être ces fonctions de l'oubli, quoi.
Ah ben alors, non, mais ça, dans le côté négatif, le trop plein d'oubli, effectivement, parce que cette difficulté dont on parle là, à fixer les choses. Bon, on dit c'est un trouble de mémoire. Mais il y a une centaine d'années, ça avait un autre nom qui me paraissait autrement fonctionnel, ça s'appelait la désorientation temporo-spatiale. Comment fixer quoi que ce soit si on ne sait pas où on est, hein? Bon, si on n'a pas les points de repère, si on n'a pas des murs auxquels s'appuyer. Donc, si on n'a pas ce sens du repérage dans le temps et dans l'espace, on est dans la même situation qu'un nourrisson en face de ce qu'on a appelé l'amnésie infantile. Il n'y a pas de fixation possible. Donc là, la question n'est pas de retrouver la mémoire, la question est de donner des points de repère. Après, la mémoire viendra. Donc ce qu'on dit là, ça a des implications pratiques, quotidiennes. Je le dis avec véhémence quelquefois, mais en même temps parce que je pense qu'on tient quelque chose et qu'on ne l'utilise pas. Comment ?
Est-ce que l'alimentation peut avoir une influence sur...
Non, mais si vous voulez, l'alimentation, l'environnement, tout a une influence sur nos capacités neurologiques, neuronales, bien sûr. Mais c'est une influence relative. Ce dont j'essaie de parler, ce sont de mécanismes fondamentaux ou fondateurs. Je pense que, comme d'ailleurs sous l'influence de l'environnement et de l'environnement, la taille moyenne des personnes grandies les personnes grandies dans les pays développés, mais c'est pas quelque chose d'absolu. On va pas voir demain des mecs qui font 3,20 m. Ils vont faire 10 cm de plus, 12 cm, 20 cm, et alors, puis ça va t'arrêter. Parce que c'est pas exponentiel, ça n'est pas le seul mécanisme. C'est un truc d'appoint. Essentiel. Si on s'arrête de manger ou si on mange que des saloperies, effectivement, mais. Ah ben c'est évident. Faites marcher vos muscles, vous serez plus dynamique et plus souple. Faites marcher votre tête, elle marchera mieux. Ça, hein?
Est-ce qu'une des vertus de l'oubli ne serait pas aussi de nous aider à être heureux?
Ah mais bien sûr, voilà. Bien sûr, parce que être heureux, Hein, là encore, on est dans des concepts très larges. Mais être heureux, si c'est le bonheur des pierres, il vaut mieux tout oublier. Oui, d'accord. Mais si le bonheur, c'est être, quelle que soit notre espérance de vie, tourné vers demain, vers l'avenir, vers le rêve, vers l'utopie, et vers tout ce qui nous dynamise, alors oui, vive l'oubli.
Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que les gens qui oublient beaucoup veulent à tout prix être heureux? Est-ce qu'on peut faire ce raccourci, en quelque sorte?
Je le dirais autrement, mais je peux vous suivre. Je dis tout à l'heure, c'est un des mécanismes fondamentaux de défense contre l'angoisse. Alors tout ce qui va vers une diminution de l'angoisse, pas la disparition, une diminution de l'angoisse, la rendre tolérable, ça c'est toujours bon à prendre. Écoutez, je crois que là, parce que j'ai un train à prendre après, je crois qu'il faut absolument qu'on s'arrête là. C'est dommage, je le regrette, je vous promets que je n'oublierai pas les questions et que ça va m'obliger à gamberger. Et c'est très bien. Et j'espère que, un, vous ne vous êtes pas trop ennuyé, et que deux, ça va aussi vous amener à gamberger un peu.
Il y a des livres à vendre si ça vous intéresse.